La semaine dernière, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, présentait à Genève son deuxième rapport sur les maladies tropicales négligées. Un sujet qui a retenu toute votre attention, Adrien Zerbini.
Effectivement. Alors, si l'on vous dit que sur Terre, 1 milliard d'individus souffrent de ces maladies, donc tropicales négligées, que ces maladies frappent presque exclusivement les plus pauvres parmi les pauvres et que leur souffrance et leur handicap engendrent, les maintiennent en fait à coup sûr dans cette pauvreté parce qu'ils s'en sortent pas. Mmh. Avouez que même sans vouloir faire dans le pathos, il y a de quoi s'intéresser à ces maladies qui généralement sont négligées.
Négligées par qui précisément ?
Alors, on va le voir, mais en tout cas pas par le docteur François Chapuis, qui est responsable de la médecine tropicale et de la médecine du voyage au HUG, donc des hôpitaux universitaires genevois, et référent pour ces deux maladies auprès de la section suisse de MSF, Médecins sans frontières. Le docteur François Chapuis, à qui j'ai demandé tout d'abord une définition générale de ces maladies tropicales négligées.
Oui, c'est un groupe de maladies qui touche les zones tropicales en prédominance, pas exclusivement toujours, mais en prédominance, et qui sont négligées, finalement négligées par de nombreux acteurs, non seulement les grandes entreprises pharmaceutiques, comme on a volontiers pointé du doigt de manière prédominante il y a une dizaine d'années, mais on se rend compte maintenant qu'il y a de multiples autres acteurs qui négligent ces maladies et qui font ainsi obstacle à l'accès des patients qui souffrent de ces maladies à un diagnostic et traitement correct.
Si elles sont négligées, et si on a dit qu'elles avaient été négligées, c'est que ce sont des maladies qui frappent des invisibles ?
Absolument. On peut vraiment dire que, plutôt que de parler de maladies négligées, on peut parler de populations négligées. C'est vraiment les pauvres parmi les pauvres qui vivent soit dans des régions rurales reculées de pays défavorisés, ou des bidonvilles dans des régions urbaines. Ce sont des personnes qui n'ont pas de voix politique. Et ça, c'est une influence très importante sur l'absence véritablement d'engagement des ministères de la santé ou plus largement des ministères ou des gouvernements dans les pays qui sont affectés par ces maladies.
Il faut peut-être qu'on présente ces maladies tropicales négligées. Il y en a, sauf erreur, 17. Alors, on ne va peut-être pas faire le tour des 17, mais de quelques-unes.
Oui, on peut globalement les diviser en deux groupes. Un groupe de maladies pour lesquelles on dispose des outils de diagnostic ou de traitement qu'on peut contrôler en fait en distribuant à large échelle des médicaments tous les 6 mois ou chaque année. C'est par exemple les parasitoses intestinales, les vers intestinaux ou bien les filarioses ou des maladies comme ça. Et puis l'autre groupe est constitué de maladies moins fréquentes mais beaucoup plus dangereuses à titre individuel, comme par exemple la maladie de Chagas, le Kala-Azar et la maladie du sommeil.
Alors, ce qui est étonnant dans ce que vous nous dites, François Chapuis, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des maladies très différentes. Il y a des maladies qui sont peu graves, très fréquentes, d'autres très rares, mais extrêmement dangereuses. Pourquoi avoir fait un paquet comme ça, un emballage sur ces 17 maladies en disant « voilà, ce sont les maladies tropicales négligées ».
De les avoir mis ensemble permet de donner des messages forts. Par exemple, de les grouper permet de montrer que plus d'1 milliard d'individus sur cette planète souffrent de maladies tropicales négligées. C'est un message fort qui, espérons-le, atteindra les oreilles des gouvernements ou de grandes fondations qui permettent d'obtenir ainsi des financements à large échelle qui puissent être ensuite utilisés soit pour développer des nouveaux médicaments ou des nouveaux tests diagnostiques ou permettre de financer des programmes de contrôle à plus large échelle. Donc je pense que c'est important du point de vue message, mais la face B de cette approche, c'est que les messages deviennent moins spécifiques et puis qu'il est parfois difficile avec des maladies si différentes en fréquence et en nature et en dangerosité d'être absolument correct et précis dans les messages.
Plus de 22 millions d'enfants ne reçoivent pas les vaccins dont ils ont besoin. Et si la tuberculose et les maladies tropicales comme Chagas sont dites négligées, elles comptent pour plus de 10% des décès dans le monde.
Peut-être juste un exemple de maladie tropicale négligée, François Chapuis, avant d'aller plus loin, c'est la maladie de Chagas.
Oui, la maladie de Chagas, c'est un exemple type de maladie tropicale négligée. Elle touche des populations rurales ou vivant dans des bidonvilles en Amérique latine, mais elle touche aussi des migrants latino-américains vivant en Suisse ou plus largement en Europe et qui vivent dans un certain niveau de précarité. C'est une maladie qui passe souvent inaperçu et qui s'exprime en fait par des complications cardiaques bien plus tard dans la vie, qu'on peut en tout cas en partie prévenir par l'administration d'un traitement, pour autant que la maladie soit dépistée à temps. Ce traitement, malheureusement, dure 2 mois, est assez difficile à supporter, avec passablement d'effets secondaires. Et c'est un champ, évidemment, énorme d'investigation pour trouver des meilleurs traitements qui bénéficieraient donc non seulement des populations vivant dans des régions rurales d'Amérique latine, mais également des populations vivant dans nos murs.
Et comment elle se transmet, cette maladie ? Comment est-ce qu'on l'attrape ?
C'est une maladie qui est transmise par une punaise, qu'on appelle un triatome, qui est une maladie vraiment de la pauvreté, parce que ces punaises vivent dans des murs en boue de séchée ou dans des toits en paille, et puis vous tombent dessus pendant la nuit, et en vous piquant, elles déposent en fait à ce moment-là les excréments qui contiennent le parasite et qui pénètrent à travers la peau et qui infectent en fait avant tout le cœur et le système digestif, mais qui encore une fois s'expriment cliniquement 20 ou 30 ans après l'infection.
Pendant ces 30 ans, on peut avoir un test qui nous dit « oui, vous avez la maladie de Chagas ».
Oui, absolument. Donc même si on n'a absolument aucun signe et symptôme, on peut détecter la maladie de Chagas par une simple prise de sang et un test de détection d'anticorps contre le parasite responsable Trypanosoma cruzi.
En 2010, l'OMS fait un premier rapport sur ces maladies tropicales négligées, un rapport qui vient d'être updaté avec un second rapport la semaine passée. À quoi servent ces rapports ? Qu'est-ce qu'ils amènent comme eau au moulin ?
Je pense que ces rapports sont très importants parce qu'ils permettent d'abord une mise à plat sur la situation actuelle et le niveau d'endémicité actuel de ces maladies. Ils permettent également de dresser des feuilles de route, non seulement pour l'OMS lui-même qui propose des politiques de contrôle de ces maladies, mais également pour les autres acteurs, les autres financeurs. Il est plus facile de fixer des objectifs comme ceux qui viennent d'être fixés par exemple par l'OMS lui-même avec des objectifs de contrôle de la maladie, voire d'élimination selon les maladies à 2015 et 2020. Mais pour cela, il faut une bonne mise à plat et avoir des bonnes données de départ pour pouvoir fixer des objectifs aussi ambitieux et pouvoir regrouper les partenaires autour de ces objectifs.
Il faudra que d'autres campagnes soient organisées si l'on veut atteindre l'objectif fixé par l'OMS, c'est-à-dire l'éradication du pian d'ici à 2020.
Éliminer, éradiquer, ça veut dire que sur ces 17 maladies, on espère une partie de ces maladies les voir disparaître de certains pays, voire de la surface du globe, et l'autre pas, comment ça se passe ?
Oui, il y a certaines maladies pour lesquelles on ne pourra pas éliminer ou éradiquer parce que, je sais pas, il y a un réservoir animal où elles sont tellement fréquentes et disséminées que pour le moment, on ne peut pas se fixer cet objectif. On pense par exemple aux vers intestinaux. D'autres maladies, par contre, comme la maladie du sommeil, elles sont éliminables, c'est-à-dire qu'on peut faire baisser la transmission de cette maladie à un tel point qu'elle n'est plus un problème de santé publique dans les pays affectés. On a les outils pour ça, ils ne sont pas adéquats encore. On aimerait avoir des diagnostics et des traitements bien plus simples, mais cela nécessitera quand même certaines conditions favorables, par exemple l'arrêt de certaines guerres civiles, comme on a au nord-est de la République démocratique du Congo actuellement, en tout cas des désordres, des groupes de rebelles qui empêchent en fait la mise en route des problèmes de contrôle. Et ça, c'est des choses qui ne peuvent pas être contrôlées par des politiques médicales.
La situation dans l'est du Congo ne cesse de se détériorer. Des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes se sont réfugiés dans des camps dressés à la hâte par l'ONU pour faire face au déplacement massif de populations consécutifs aux troubles entre la rébellion et l'armée congolaise.
Pourquoi les gens qui ont contracté ces maladies sont-ils négligés ? Nous pouvons vaincre l'indifférence et sauver des millions de vies.
Voilà, extrait de différentes campagnes signées Médecins sans frontières sur les maladies tropicales négligées, vous l'aurez compris. Ça tombe bien puisque François Chapuis, qu'on vient d'entendre, travaille aussi pour Médecins sans frontières. Il est responsable de la médecine tropicale et de la médecine des voyages aux hôpitaux universitaires de Genève et donc référent notamment auprès de MSF. Adrien Zerbini, la semaine dernière, donc on le disait, hein, l'OMS a publié son deuxième rapport sur ces maladies tropicales négligées. Que nous dit ce rapport?
Alors c'est un rapport globalement positif. L'OMS y annonce, je cite, des progrès sans précédent dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Comme le disait François Chapuis, certaines cibles sont très précises, comme c'est pour le cas de la maladie du ver de Guinée, dont l'OMS cible l'éradication mondiale possible en 2015, c'est-à-dire on y est presque. Ouais. Et puis concernant le groupe de maladies qu'on peut éviter en prenant un médicament ou deux par an, hein, ce qu'on appelle la chimioprévention, et bien là aussi la distribution mondiale a, nous dit l'OMS, progressé. Aujourd'hui, presque un milliard d'humains reçoivent chaque année l'un ou l'autre de ces traitements préventifs. Enfin, certaines maladies sont en nette régression, comme la maladie du sommeil, dont le nombre de cas aurait été divisé par 4 au niveau mondial durant ces 10 dernières années.
Donc plutôt des bonnes nouvelles.
Bah oui, c'est effectivement plutôt le ton de ce rapport.
Voilà, et si ces maladies sont en régression, c'est notamment grâce à des initiatives comme l'initiative Médicaments contre les maladies négligées, en anglais Drugs for Neglected Diseases Initiative, DNDI. C'est une organisation à but non lucratif dont le siège se trouve à Genève et dont nous recevons la directrice médicale Nathalie Strub. Bonjour.
Bonjour.
Drugs for Neglected Diseases Initiative. Vous êtes une organisation indépendante de recherche et de développement de médicaments contre les maladies négligées. Plus concrètement, que faites-vous? Comment fonctionnez-vous finalement?
Alors, On est ce qu'on appelle un Product Development Partnership. Ça veut dire qu'on est une organisation qui fonctionne sur la base de partenariats. On a été créé en 2003, lorsque MSF a eu le prix Nobel de la paix et parce que les médecins qui étaient sur le terrain se rendaient compte qu'il manquait des médicaments cruellement pour certaines maladies dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, on a été organisé comme fondé par des partenaires de recherche dans les pays dans lesquels sévissent ces maladies. Donc on a comme fondateur l'Institut Pasteur à Paris, mais on a aussi les instituts de recherche au Kenya, en Inde, au Brésil, en Malaisie, et l'OMS qui fait partie de notre organisation. Et ensuite, on s'est orienté sur le développement de médicaments pour un certain nombre de maladies.
Oui, parce qu'on
pas
disait
toutes.
Qu'il y en a 17, vous ne pouvez pas travailler sur les 17 en
Absolument.
Même temps.
Absolument. Donc on s'est fixé comme objectif de travailler sur des maladies pour lesquelles, d'une part, il y avait des besoins très importants, d'autre part, les probables chances de succès existaient, ce qui fait que ça valait le coup d'essayer de s'engager là-dedans. Et on a donc développé un modèle de comme on fait dans l'industrie pharmaceutique, mais de façon un peu différente, puisqu'on n'a pas nous-mêmes des laboratoires de recherche. Donc on est allé chercher les chercheurs, les institutions, les groupes de recherche, là où ils existent, en essayant de les convaincre qu'on avait un programme, un business plan qui avait du sens et qui permettait d'essayer d'arriver à résoudre ces problèmes.
Donc vous arrivez chez eux avec de l'argent, en fait, finalement, et puis vous les soutenez financièrement pour qu'ils avancent dans la recherche, c'est ça ?
Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas l'argent. Donc une grande partie de ce qu'on doit faire, c'est trouver cet argent. Ouais. Et pour trouver cet argent, il faut avoir un business plan qui est suffisamment convaincant. Et on a la chance d'avoir comme financeur, on a un équilibre, ce qui nous permet notre indépendance, puisque c'était votre question. On a 50% de financement public et 50% de financement privé.
Donc ça veut dire que ce ne sont plus des maladies négligées, puisque vous obtenez de l'argent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent pour faire avancer la recherche.
Oui, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on arrive à convaincre certains donateurs, mais on doit les convaincre tous les ans qu'on a besoin de plus, parce que justement, on a des messages qui sont parfois un peu contradictoires, où on pense qu'on a réussi et que toutes ces maladies vont disparaître. Or, c'est faux. On développe des médicaments, et développer des médicaments, comme on développe un médicament pour certaines maladies ici, c'est aussi long, compliqué. On a des échecs, comme pour tout médicament. Donc, il faut qu'on puisse avoir des financements qui sont pérennes et qu'on puisse voir à 5 ans, 10 ans, d'être sûr de pouvoir arriver à notre objectif.
Adrien.
Nathalie Strub, comme on ne pourra pas parler en quelques minutes de tous les projets que vous menez, je vous propose de nous intéresser plus particulièrement à une maladie sur laquelle vous avez déjà beaucoup travaillé avec un certain succès, c'est la maladie du sommeil, on l'a dit, qui est en régression mondiale actuellement, en partie grâce aux travaux de DNDI, me semble-t-il. Peut-être pour commencer, quelques explications sur ce qu'est cette maladie du sommeil hein, qui, enfant, intrigue toujours avec cette mouche tsetse. C'est en fait une terrible maladie.
C'est une maladie horrible. Je trouve que son nom n'est pas bon parce qu'elle n'endort pas, elle tue. C'est une maladie qui tue tous les patients qui vont la contracter. Alors, c'est une maladie qui sévit plutôt en Centrafrique, dans des régions reculées, comme l'a dit le docteur Chapuis. Souvent, des paysans ou des pêcheurs qui vivent près des rivières, qui sont piqués par cette mouche, qui va piquer beaucoup, mais qui va en infecter quand même, qui va devoir piquer beaucoup pour infecter. Mais quand elle infecte, ça passe relativement inaperçu, les patients ne s'en rendent pas tellement compte. Et au bout d'un certain temps, le parasite va envahir le système nerveux central, et c'est là qu'ils vont commencer à développer des symptômes qui vont être des symptômes, par exemple, de somnolence. Ils vont dormir pendant la journée, donc et être complètement excités la nuit. Ils vont avoir des syndromes, des agitations. Ils vont se mettre à parler beaucoup, à rire, à être bizarre, à avoir des tremblements, des crises d'épilepsie, des choses très visibles qui font peur. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont vouloir parfois aller chercher un traitement lorsqu'ils sont pas isolés complètement à cause de leurs symptômes. Et la difficulté, le côté vicieux de cette maladie, c'est que on peut traiter les patients quand ils sont au premier stade de la maladie, avant qu'ils soient dans le système, que le parasite envahisse le cerveau. Mais les patients ne sont pas diagnostiqués à ce moment-là. Mais ce médicament qu'on peut donner à ce stade-là ne passe pas dans le cerveau. Donc, pour savoir comment traiter les patients lorsqu'ils sont au stade où le cerveau est envahi, il faut leur faire une ponction lombaire. Vous savez ce que c'est qu'une ponction lombaire, c'est-à-dire qu'on met un énorme trocar dans la colonne vertébrale. Mmh. Ça fait mal, c'est affreux, et c'est la seule façon de savoir quel médicament donner.
Alors aujourd'hui, cette maladie est en régression, notamment grâce, vous l'avez évoqué, à un traitement qui s'appelle NECT.
Oui, donc le NECT, c'est un médicament qui a été introduit à la suite d'études faites avec MSF et DNDi, qui est un médicament qui est plus simple parce que avant on donnait un dérivé de l'arsenic, qui était un médicament très efficace, pas cher, mais qui tuait. 5% des patients mouraient directement à la suite de l'administration de ce médicament. Donc il y a eu des efforts pour trouver autre chose, et on a développé ce médicament qui ne peut être donné qu'à l'hôpital parce que il faut faire 14 perfusions sur 7 jours, donc des perfusions qui durent 2 heures à chaque fois. Donc vous pouvez imaginer que c'est pas possible de faire ça en brousse. Où sont les patients, puisqu'ils sont vraiment dans des villages très très reculés. Et l'association, on a associé ce médicament à un autre médicament qu'on donne par la bouche pendant 10 jours. Donc c'est très bien, c'est beaucoup mieux que l'autre qui tuait. Donc on a fait un énorme effort, mais c'est pas suffisant pour pouvoir permettre de traiter les patients là où ils sont, dans les villages. Parce qu'encore une fois, ça ne traite que les patients qui vont à l'hôpital.
Et donc, vous travaillez actuellement, vous êtes en phase de test pour un médicament encore plus efficace que vous avez développé avec DNDi.
Alors, plus efficace, je ne sais pas, parce que ce médicament qu'on a testé est extrêmement efficace. Mais l'avantage majeur de ce médicament serait qu'il serait donné par la bouche uniquement. Et donc, on pourrait le donner au village. Et donc, on n'aurait plus besoin de faire de ponction lombaire, puisque comme il marcherait dans le cerveau, il marcherait aussi dans le premier stade. On le donnerait au village et ça serait terminé. On pourrait traiter tous les patients de façon beaucoup plus efficace, sans qu'ils aient besoin de se rendre à l'hôpital, donc en économisant les ressources des systèmes de santé dans ces pays pauvres. Et en permettant un accès à tout le monde et sans ponction lombaire.
Et alors un médicament comme ça, c'est combien d'années de travail pour le développer, pour le valider ?
En fait, parce que c'est une maladie qui est tellement prioritaire en termes de santé publique, on essaie de faire les choses. Notre logo, c'est de faire les choses, c'est la meilleure science pour les plus négligés. Donc on essaie de faire ça le plus rapidement possible. Je pense que d'ici 2 ans, on aura la réponse sur l'efficacité de ce médicament.
Donc c'est un exemple positif qui permet d'être un peu comme ce rapport de l'OMS, assez positif sur l'élimination, en l'occurrence, de la maladie du sommeil à terme, si ce médicament s'avère efficace. Mmh. Et évidemment, cette vision positive, vous l'avez dit, elle n'est pas valable pour les 17 maladies.
Non, clairement pas, mais il y a, comme l'a dit le docteur Chapuis, il y a un certain nombre de maladies pour lesquelles il faut que les systèmes de santé soient renforcés pour pouvoir administrer les médicaments qui existent et qui peuvent permettre de prévenir. Et ça, c'est une part qui est absolument hors de ce qu'on fait. Mais nous, on sait par exemple que dans tout le développement des médicaments, même dans les maladies infectieuses où on peut mieux prédire l'efficacité du médicament, on a 60 à 70% de chances de réussir. Donc ça veut dire qu'on a quand même 20 à 30% de risque d'échec. Et donc il faut continuer la recherche, il faut continuer à investir dans la recherche pour être sûr à la fin d'avoir toutes les chances d'avoir un traitement qui marche.
On l'a dit tout à l'heure, les maladies tropicales négligées frappent des millions de personnes avec des souffrances, des handicaps qui, depuis des siècles, les maintiennent finalement enlisées dans la pauvreté. Mmh. Est-ce que, à l'inverse, lorsqu'on évite, justement, lorsqu'on arrive à soigner ces maladies, on voit réellement des populations sortir de cette pauvreté ?
ça voudrait dire qu'on a réussi quand on voit, si on les voit sortir. Mais on sait que, bien sûr, que le fait de les traiter, bien sûr, le fait qu'elles n'aient plus à dépenser tout cet argent pour se traiter, bien sûr que tout ça va contribuer à rendre, à redonner une certaine puissance économique à tous ces patients qui sont complètement invalidés, qui ne peuvent pas travailler, soit parce que eux-mêmes sont malades, soit parce que leurs familles sont malades et qu'ils doivent subvenir aux besoins de leur famille. Et donc, il y a une perte de rendement direct.
On parle de 17 maladies tropicales négligées. Est-ce qu'on n'en a pas encore négligé d'autres qui devraient s'ajouter à cette liste? Est-ce qu'il y a des maladies tellement négligées qu'elles ne sont pas dans la liste?
Malheureusement, vous avez raison. Malheureusement, il y a d'autres maladies qui ne sont même pas encore sur la liste de l'OMS. On peut parler des morsures de serpent qui viennent d'être inscrites sur la liste de l'OMS, mais on peut aussi parler du mycétome ou d'autres maladies qui sont cachées, parce que ces patients ont tous les mêmes caractéristiques. Ils sont pauvres, ils sont cachés et ils n'ont pas d'association de patients pour faire la promotion de leur maladie.
Nathalie Strub, directrice médicale de l'ONG Médicaments contre les maladies négligées, donc DNDI en anglais. On comprend bien que vous intervenez partout à travers le monde, donc il faut que vous ayez un acronyme anglophone, enfin un nom anglophone pour vous faire comprendre un peu partout. Merci d'être passée nous voir, Nathalie Strub.
Merci beaucoup.
CQFD sur la première.